Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Malgré les risques qui pèsent sur la conjoncture économique mondiale, l'économie togolaise demeure résiliente. C'est l'une des conclusions de la troisième session de l'année du Conseil national du crédit CNC tenue le mardi 30 septembre à Lomé. Dans le détail, le taux de croissance est attendu autour de 6,3% en 2025 avec une contribution soutenue de l'ensemble des secteurs, en particulier le tertiaire. Par ailleurs, le secteur financier maintient son dynamisme avec une progression notable de 22% des crédits bancaires nouvellement octroyés. La dette publique, quant à elle, continue d'être soutenue ou contenue, j'allais dire, représentant 65% du PIB à la fin juin 2025 contre 69% en décembre 2024 et se situe donc en performance ou en dessous, j'allais dire, du plafond communautaire de 70%. Et ces performances s'accompagnent d'un impact positif sur le plan social illustré par le bond de l'indice de développement humain IDH qui place le pays au deuxième rang de l'UMOA et au quatrième rang de la CEDEAO. Toutefois, plusieurs défis restent à relever. Bien sûr, c'est ce qui est à noter. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons bien sûr en parler et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Nous allons bien sûr en parler dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 2 octobre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitok Beitobega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que vous nous suivrez partout alors sur toutes les étendues du territoire national. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébé. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au jeudi. Jeudi, ça rime bien avec Ambroise Konzo. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour vos invités. Bonjour les amis techniciens qui sont derrière moi. Bonjour mon autre confrère et tous ceux qui nous suivent depuis Lomé et ses environs, jusque dans les autres localités du pays, voire de la diaspora. Je voudrais d'abord envoyer ce coup de gueule qui touche ou qui concerne la Banque Atlantique. La Banque Atlantique, il nous est revenu à plusieurs reprises de la part de certains clients qui a toujours le gap qui manque dans leurs caisses quand vous êtes allé chercher de l'argent, que ce soit à Goué, que ce soit dans plusieurs banques. Il y a comme l'impression qu'il y a un problème que la banque ne dit pas. Et nous ne voulons pas pour le moment en faire un dossier, mais nous voulons les exhorter à corriger ce mal ou ce manquement pour le bonheur du client. Parce que si vous voulez être une institution financière viable, je crois que le minimum, c'est de mettre à disposition du client de l'argent que la personne même a déposé, de ne pas en souffrir. Donc il est important qu'ils garnissent leur unité de caisse là, de l'argent pour que le client en souffre. Je crois que nos amis de la Banque Atlantique ont bien compris le message et en attendant de revenir en de meilleurs sentiments, ou le contraire, nous en ferons un dossier, parce que c'est notre responsabilité et c'est notre devoir.
Justement, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir.
Si tu le permets, juste quelques secondes pour envoyer un message encore au ministère de la Sécurité et des Transports.
Qu'est-ce qui se passe
là? Les enfants ont repris la rentrée, on l'a dit. Le respect du code de la route est un élément essentiel dans la préservation des vies. Le respect du code de la route. Et si ce respect du code de la route doit être plus comme une valeur, je crois qu'il y aura moins de morts sur nos routes, moins d'accidents, moins de traumatos sur dans la communauté, parce que les enfants ont repris, non seulement les enfants, les adultes, nos mamans aussi, même nos sœurs qui traversent la route. Donc, les camions de transport de sable, les camions de transport de marchandises, les titans là, qui déambulent nos voies bitumées, n'ont qu'à faire extrêmement attention et que le ministère leur fasse respecter les heures de pointe à ne pas quitter leur lieu de débarquement.
Merci Ambroise Kondo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magloire Kenviteko, bonjour.
Bonjour à toi Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ça va par la grâce de Dieu, je l'espère de ton côté également.
Ça va par la grâce de Dieu, j'avoue que vous êtes élégant dans votre veste ce matin.
Merci beaucoup. Mais comme je te l'ai dit, l'homme ne vit pas que du pain.
Oui.
La Bible l'a ainsi dit. Et il faut aussi par moment se faire plaisir, n'est-ce pas?
Et justement, se faire plaisir.
Nous y sommes.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Flambeau des Démocrates qui est dans les kiosques, bien sûr, ce matin. Jean Le Grand Polorini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux conférenciers, aux invités, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, ça va. Tant qu'on a la vie, on a la santé. Je dis qu'il y a espoir.
Oui, il y a toujours espoir quand on a la vie et la santé. D'accord.
Évidemment.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal Canal D. Nous allons mener le débat dans quelques instants. Mais toutefois, nous commençons cette émission avec nos invités, monsieur Koutonet Maouna. Bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien.
D'accord, vous êtes le directeur général de Holo Africa.
Oui, Holo Africa.
Holo Africa, nous allons bien sûr parler alors de Holo Africa. Qu'est-ce que c'est concrètement? Nous allons en parler tout de suite, mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes accompagné alors de monsieur Touba et Tanama. Monsieur Touba, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais toujours bien.
D'accord. Vous êtes le directeur marketing de Holo Africa, bien sûr. Donc, je le disais, nous allons parler de Holo Africa. Alors, vous êtes la première fintech agréée BCAO Togo à l'issue alors de la dernière revue de l'institution pour l'espace UMOA. Alors, monsieur Koutonet, pouvez-vous nous très rapidement, est-ce que vous pouvez bien nous expliquer surtout à nos auditeurs, ce que c'est qu'une fintech?
Oui, merci beaucoup Pascal et merci pour votre invitation. Salut à vos confrères journalistes dans le studio, salut aux auditeurs. Je suis donc Maouna Koutonet, donc je suis le directeur général de Holo Africa. Et une fintech, en fait, c'est en anglais, ça veut dire financial technology. En fait, on est une société technologique qui opère dans le domaine de la finance et nous sommes spécialisés tout particulièrement dans la finance des groupes. Donc, c'est notre société qui développe l'application phare, qui est l'application Ohana, Ohana Africa, qui est une fintech qui est dédiée à la finance de groupe. Et la finance de groupe, ça veut dire quoi? Dans tous les autres pays du monde, souvent, l'épargne est individuelle. Mais en Afrique, l'épargne est toujours collective. Les gens sont dans les tontines, les groupements d'épargne de crédit, ou que ce soit dans les familles, avec les caisses d'urgence familiale. Nous mettons toujours de l'argent ensemble. Mais la société évolue, la digitalisation est venue, et Holo Africa vient aussi comme une fintech qui apporte une solution pour la digitalisation, mais pour offrir davantage de services aux Togolais.
Alors, c'est vrai que votre fintech, Holo Africa, a donc reçu l'agrément de la BCAO avec son application Ohana Africa. Alors, M. Touba, qui est donc alors la fintech Holo Africa, ou qu'est-ce que c'est concrètement?
Je crois que mon collègue a déjà défini un peu ce que c'est qu'une fintech.
Oui.
Et donc la fintech aujourd'hui dans notre cas c'est Holo Africa et il a encore précisé c'est Holo Africa qui a développé l'application digital qui s'appelle Orana Africa et qui permet justement de gérer tous les groupes sociaux qu'il a cités tout à l'heure. Puisqu'en Afrique, nous avons l'habitude de mettre de l'argent ensemble, ça on l'a déjà dit, que ce soit en famille, que ce soit dans des groupements informels, comme des chorales, des clubs de football dans les quartiers, ou juste même quelques amis d'anciens élèves de tel lycée, de tel collège, etc., qui manifestent un besoin particulier, étant éparpillés de par le pays ou le continent ou de par le monde, qui manifestent peut-être à un moment donné l'idée ou bien l'envie de mettre de l'argent ensemble pour réaliser des projets, parfois en direction de leur région ou ville d'origine. Alors, ce genre de processus de mise ensemble de l'argent a été toujours fait de façon informelle. On essaie toujours de se retrouver physiquement. Il faut collecter l'argent physique. Il faut trouver des administrateurs ou bien fabriquer des caisses chez un soudeur et avoir peut-être trois clés, sans même donner des noms à des groupements qu'on appelle des groupements trois clés. Et on distribue les clés à des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, juste pour éviter le vol. Parce qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème de trafic, il y a un problème de corruption, il y a un problème de confiance qui s'oppose. Olo Africa, en développant l'application Orana Africa, vient résoudre justement tous ces problèmes qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Donc si aujourd'hui vous voulez adopter notre solution, c'est Orana Africa que vous devez télécharger et suivre le processus en toute tranquillité.
Et suivre le processus justement en toute tranquillité. Alors moi, je reviens sur cet agrément que vous avez reçu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change chez l'utilisateur togolais?
Oui, ça change beaucoup de choses parce que par le passé, les Togolais ont été confrontés à des difficultés de confiance. On a beaucoup d'applications en ligne, ils font des collectes, ils mettent de l'argent ensemble. Soit l'application disparaît tout simplement. C'est arrivé dans des cas concrets même de microfinance où les gens ont mis de l'argent, la micro-sénalité. Donc, depuis quelques années, la BCAO a mis en place un certain nombre de process. Et depuis l'année dernière, la banque régulatrice a pris des actions assez vigoureuses pour mettre de l'ordre dans le secteur de façon à rassurer les consommateurs et aussi à s'assurer que les acteurs qui interviennent dans le secteur respectent un certain nombre de règles et aussi faire en sorte que l'argent que les Togolais déposent auprès de leur microfinance ou dans leur groupement d'épargne et crédit ou à travers les applications digitales soit sécurisé, ségrégé des opérations propres des sociétés. Donc cet agrément intervient pour nous, comme notre partenaire Ecobank l'a dit, avant vous jouez petit poteau, maintenant vous jouez grand poteau, dans le sens où
avant c'était petit poteau.
Petit poteau.
Voilà.
Et parce que, comme peut-être notre directeur marketing va le dire, c'est vrai que nous sommes la première fintech au Togo à avoir obtenu l'agrément de la BCAO. C'est un grand événement parce que c'est la première fois. Et aussi...
Mais justement, sur ce point, qu'est-ce qui vous a donné justement ce privilège-là d'être même d'ailleurs la première fintech à avoir l'agrément? Oui, monsieur Touba.
Vous posez une très bonne question parce que quand on dit qu'on a reçu l'agrément de la BCAO, aujourd'hui on en parle comme si c'était quelque chose de très simple. Mais si vous avez des amis, des parents qui travaillent dans le secteur bancaire et financier et qui vous disent par exemple qu'ils vont recevoir la visite de la commission bancaire, ils peuvent vous assurer que vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est le branle-bas de combat général parce que c'est l'une des institutions qui a gardé sa crédibilité et sa rigueur jusqu'à ce jour. Et qui n'est pas corruptible, qui est très objectif dans ses procédures. Et donc, on vous passe vraiment au crible. Cela signifie qu'aujourd'hui, la BCAO, qui est l'instance de gouvernance régionale en matière de finances aujourd'hui, a passé tous nos process et notre méthode de travail au crible. Que ce soit en termes d'honorabilité des personnes qui sont les promoteurs. C'est-à-dire que les promoteurs, ils ont passé notre honorabilité au peigne fin. Ensuite, l'origine des fonds et ensuite la qualité de l'application que nous mettons à la disposition des populations, la sécurité que nous promettons et que nous garantissons aux fonds qui sont collectés, parce que, vous savez, on ne joue pas avec l'épargne. L'épargne des communautés, des citoyens, on ne peut pas jouer avec ces
fonds. Il semble que l'agent n'aime pas le bruit.
L'agent n'aime pas le bruit, mais c'est que, vous savez, l'avenir de toute population, de tout pays en général, c'est la collecte de l'épargne et des pensions. Et il y a beaucoup de pays qui l'ont compris aujourd'hui et ne laissent pas la collecte de l'épargne et des pensions, par exemple, tout ce qui est assurance, dans les mains des structures étrangères. Parce que c'est le cœur même du développement. Donc, on ne joue pas avec l'épargne. Donc, si la Banque centrale arrive à nous donner un agrément, après avoir fouillé, cherché pour comprendre un peu l'application, c'est qu'à un moment donné, nous ne jouerons plus dans petit poteau. Mais nous sommes arrivés à la Champions League.
Vous êtes à la Champions League.
Et tout simplement, pour vous dire un peu, c'est que le processus a été long. On a fait des auditions avec le siège national de la BCAO. Donc, nos équipes, les équipes nationales ont travaillé. Mais aussi, on a fait plusieurs auditions avec le siège à Dakar. Donc, il y avait plus d'une trentaine de fintech au Togo. Beaucoup plus grosse et plus ancienne que nous. Mais c'est vrai que nous avons apporté une façon de travailler, une rigueur et un processus dans la mise à disposition de nos outils. Mais au-delà de ça, c'est l'honorabilité. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui portent ce projet, on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils ont l'expérience? Est-ce qu'ils ont la maîtrise des technologies? Mais aussi, il y a le côté innovation. Nous répondons à un vrai besoin qui est sur le terrain, qui est de sécuriser. Actuellement, il y a plus de 50 000 groupements d'épargne de crédit qui touchent environ 1,2 million de foyers au Togo. Et pour beaucoup de gens, en fin de compte, le groupement est devenu la première famille. Quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent plus appeler un membre de la famille, ils appellent un membre du groupement. Et tous ces groupements, ce qu'ils appellent les caisses de solidarité pour aider au cas des funérailles, des naissances, mais plusieurs activités. Donc en réalité, le régulateur a vu en nous une réponse à une vraie préoccupation des populations et la sécurisation des fonds aujourd'hui est un défi important et cette institution a prêté nous accompagner.
D'accord. Ouais. Monsieur Touba, c'est vrai, parlons maintenant alors des groupements, puisque vous évoquez le sujet des groupements et de la gestion alors de leur cotisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement à travers cette application financière?
Nous vivons dans un monde dit d'inclusion aujourd'hui parce que la plupart des gouvernants, la plupart des décideurs, des leaders essaient d'aligner leur politique sur la question de l'inclusion parce que justement le plus grand nombre est exclu du système financier classique que nous connaissons. Tout ce qui est banque, même microfinance, je peux vous assurer que quand vous faites des proportions, il y a un grand nombre qui est exclu de ce schéma classique. Nous, aujourd'hui, nous permettons justement à cette proportion de population qui est exclue du finance, ou bien du système financier classique à être digitalisée ou bien à participer, à mettre un pied dans la modernité. Donc, c'est tout simple. Avant, vous êtes obligé de vous réunir physiquement pour pouvoir collecter de l'argent. Vous n'êtes pas sûr que quand vous mettez de l'argent ensemble, que la caisse que vous avez choisie ensemble est sécurisée. Vous n'êtes pas sûr non plus le jour où vous faites le point de ce qui a été cotisé que en l'amenant dans une microfinance ou bien en la déposant sur un compte bancaire, si en cours de chemin, il y a un ou deux membres de l'association ou du groupement ne vont pas s'entendre pour pouvoir piquer l'argent dedans. Vous êtes à l'époque, vous faites face à un décès dans l'association. Il faut d'abord savoir que la personne était membre de l'association. Ensuite, qu'elle cotisait. Et ensuite, aller chercher et fouiller ses affaires pour trouver le carnet ou les papiers sur lesquels on peut trouver la preuve qu'elle cotisait, avant de commencer par réclamer de l'argent. Et avec ça, vous n'êtes même pas à l'abri des incendies, vous n'êtes pas à l'abri des inondations, vous n'êtes pas à l'abri des vols, des paperasses ou des documents. À la fin de l'année, vous faites face à un comptable, un financier, à qui vous demandez un point et qui doit s'arracher les cheveux de midi à 14h pour vous faire le point à des populations peut-être qui ne sont même pas lettrées. Aujourd'hui, nous, on vous dit, vous n'avez pas besoin de tout ce tralala. De là où vous êtes, vous téléchargez l'application, vous pouvez cotiser directement de votre propre lit. Ah bon? Et quand vous cotisez, avec l'application vous inscrivez, oui. Vous suivez le processus, vous allez fixer une cotisation de 2000 francs par mois, je réfléchis à votre voix, vous cotisez directement de votre téléphone. Et vous avez la possibilité de suivre la traçabilité de votre cotisation. Qui est à jour, qui n'est pas à jour, combien vaut votre groupement, votre association, votre famille à date, vous pouvez le savoir juste en allant sur l'administration, sur l'application. Et en plus, si vous voulez retirer de l'argent, vous désignez minimum deux administrateurs, on initie la demande de retrait ou bien de paiement, l'autre administrateur est valide et vous avez l'assurance que votre argent est sécurisé. Donc ça, ce que nous apportons aux populations aujourd'hui, c'est une innovation et une révolution dans le domaine de la finance inclusive.
Oui, mais M. Mauna.
Oui, en fait, on s'adresse à plusieurs types de groupements. Par exemple, vous êtes un club de sport de football d'un quartier. Et tous les samedis, vous mettez ensemble 500 francs parce que ça vous permet d'avoir une petite caisse au cas où il faut faire un voyage, acheter des maillots, etc. Comment vous gérez ça? Et vous mettez de l'argent, certains donnent par timonie, certains donnent par flou, certains donnent en espèces. Il faut tenir une comptabilité. Ce que nous disons aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de souffrir comme ça. Téléchargez l'application Ohana Africa et demandez à votre groupement, est-ce que vous êtes d'accord que vous... L'application devient votre comptable de façon automatique. Qui a, comme m'a dit mon collègue, qui a payé, qui n'a pas payé, qui a joué, qui
c'est-à-dire vous suivez la traçabilité.
Il suit la traçabilité tout simplement et de façon assez simple. Vous êtes une association, vous faites des cotisations mensuelles ou annuelles, c'est la même chose. Au lieu, parce que souvent les caissiers, les trésoriers, c'est des bénévoles. Et c'est un travail lourd. Aujourd'hui, vous téléchargez l'application Ohana pour vous. Vous êtes une chorale, c'est la même chose. Vous mettez de l'argent pour la fin de l'année. Vous êtes un groupement d'apprentis ou un corps de métier. C'est la même logique. Vous avez une application qui devient votre comptable, qui veille sur votre argent. Et l'argent est sécurisé en toute transparence. Une seule personne ne peut pas retirer de l'argent. Un administrateur initie la demande de paiement. La notification est envoyée aux autres administrateurs. Et c'est quand ils donnent l'accord que l'argent peut être retiré. Et nous avons plusieurs innovations qui viennent dans la joie à venir. C'est que aussi, nous sommes une des toutes premières tech, fintech, donc agréée par la BCAO, à intégrer le système où les frais de dépôt, comme les frais de retrait, sont totalement gratuits et à zéro.
Ah bon?
Oui.
Mais là, qu'est-ce que vous gagnez?
Ah. Parce que l'épargne que vous mobilisez, vous le déposez auprès des banques. Et les banques vous payent des intérêts. Nous, en tant que société, nous sommes apporteurs d'affaires, c'est-à-dire nous aidons les banques à collecter, à avoir de nouveaux clients, et nous sommes rémunérés par les banques sur le dépôt que vous faites auprès des banques. Voilà notre travail. Et aussi, nous sommes accompagnés par beaucoup d'institutions qui sont soucieuses. Vous voyez, comme vous avez des journalistes dans le studio et qui nous écoutent aujourd'hui, le secteur informel au Togo, ça fait 30% du PIB. C'est 1770 milliards. Mais aujourd'hui, cet argent est invisible et caché au secteur formel. Qu'est-ce qui se passe? Même dans les microfinances, il n'y a que 10% de cet argent qui est capté. 240 milliards. Donc, il y a à peu près 1500 milliards qui passent dans des circuits informels, mais qui peuvent être mobilisés de façon à ce que l'épargne informelle devienne un outil d'intégration formelle dans le système financier. Donc voilà un peu notre valeur ajoutée que nous apportons. Et c'est bien compris par d'autres acteurs qui nous appuient dans l'éducation des groupements pour qu'ils se digitalisent. Mais aussi, ça amène un ensemble de facteurs, par exemple les microcrédits aujourd'hui, parce que ça vous permet, quand vous avez une déficience, vous avez une urgence absolue, vous pouvez à travers l'application faire une demande, si c'est 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, et beaucoup de gens nous ont témoigné. Ces groupements sont devenus leur moyen de pouvoir, quand ils ont le dos au mur, ils ne peuvent pas appeler quelqu'un de leur famille, adhérer à ce genre de groupement et suivre les règles est devenu le meilleur moyen de se protéger contre les imprévus, en fait, pour avoir la quiétude. En fait.
D'accord. Monsieur Thomas, c'est vrai, quand on parle alors d'application, ça veut dire qu'on parle également de Play Store, sur lequel on peut télécharger même d'ailleurs cela, et on parle également d'Internet, on parle de smartphone, mais au regard du fait que déjà, il n'y a pas assez de personnes qui utilisent alors de smartphone, puisque votre application est destinée à tous les Togolais, et aussi alors pour les questions d'accessibilité à l'Internet, est-ce que ça ne pose pas déjà un peu le jeu? Est-ce que ça ne constitue pas d'obstacle pour vous?
Vu notre temps d'antenne dont nous disposons aujourd'hui, oui. Je vais passer la balle, comme nous sommes en Champions League, je vais passer la balle à mon...
Au marqueur.
Au marqueur.
C'est tout qui marque, voilà, c'est l'essentiel.
Oui, monsieur. En fait, c'est que nous avons pensé à ça, et c'est vraiment une innovation. C'est une application, même quand vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous pouvez l'utiliser. Même quand vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez l'utiliser. Nous avons, oui, absolument. Et le côté un peu magique de notre application, c'est que le jour où vous décidez, vous avez un numéro de téléphone et vous rentrez votre numéro de téléphone dans l'application, toutes les collectes que vous avez faites dans tous les groupements y compris déposés à la banque, vous les retrouvez de façon automatique. Nous avons une fonctionnalité phare dans l'application qui est la fonction payer pour. Par exemple, comme nous sommes au studio ici, nous sommes 6, je suis la seule personne à avoir un smartphone. Vous me donnez de l'argent et automatiquement, je peux payer à travers un des créneaux qui sont disponibles sur vos comptes et vous recevez une notification. Ou je peux initier le paiement en disant « Vous n'avez pas payé, j'initie mon paiement directement sur mon téléphone. » Et vous pouvez aller payer si un agent, c'est-à-dire un agent timonier ou un agent de flouze, votre contribution qui va s'afficher automatiquement dans l'application. Et où vous pouvez me donner de l'espèce, comme vous ne pouvez pas contribuer vous-même, je le mets sur mon timonier et je peux contribuer pour votre nom. Et vous pouvez automatiquement recevoir une notification SMS sur votre téléphone pour voir votre contribution. Et une fois dans l'application, les administrateurs vérifient que effectivement l'argent que vous avez envoyé est dans l'application. Donc, quand vous allez dans Play Store, ce que vous faites, c'est que en tant que groupement ou club de sport choral, ce que vous faites, c'est que la première étape, c'est que l'administrateur ou les gens qui sont devant, ils décident d'utiliser l'application. Ils disent, est-ce que vous êtes d'accord que nous utilisons l'application ? S'ils sont d'accord, vous allez dans Play Store, vous téléchargez l'application. Il suffit de 2 administrateurs pour commencer, mais les autres peuvent se rejoindre et regarder tout ce qui se passe dans l'application en entrant tout simplement le numéro de téléphone.
D'accord.
Donc, on a simplifié énormément le processus. Et dans les premiers pas aussi, vous savez pas comment on est ici, peut-être il y a vos amis journalistes qui sont sur le téléphone. Vous allez dans Play Store, vous cliquez sur « Rechercher », vous tapez « Ohana Africa ». Et Ohana Africa dans Play Store, vous téléchargez l'application, vous n'aurez jamais besoin, par exemple, de mot de passe. La sécurisation est faite de façon automatique sans que vous n'ayez jamais besoin de mot de passe. Vous pouvez débloquer l'application avec votre PIN code ou avec votre empreinte digitale ou recevoir un mot de passe sécurisé à chaque fois que vous voulez vous connecter. On a fait de façon à ce que l'adoption, le onboarding des utilisateurs soit le plus facile parce que nous connaissons cette population. Et je crois que ces genres d'innovation ont été la raison principale pour laquelle le régulateur a vu en nous un acteur sérieux, crédible, qui comprend vraiment les besoins du secteur et qui peut vraiment apporter de la valeur ajoutée.
D'accord. Jean Legrand, vous avez suivi quand même les explications. C'est une innovation.
Oui, j'avoue que j'ai été séduit par l'innovation dont les deux promoteurs nous ont parlé. Moi, ma question, oui. Je crois que tu l'as un peu prise en compte, c'est celle de savoir pour les Togolais qui est dans une ferme à Djarkpanga ou à Djankassé, mais comment il fait quand l'internet et puis quand il n'a pas de smartphone. Mais j'ai été agréablement surpris lorsque le promoteur a expliqué que c'est possible avec même le téléphone 1+1. Moi j'aimerais savoir de façon pratique, si personne n'a un smartphone dans l'environnement et il y a un groupement, ils sont supposons 10, mais personne n'a de smartphone, comment est-ce que c'est possible d'intégrer l'application, par exemple?
Oui, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à votre confrère. Oui, aujourd'hui, il faut minimum un appareil smartphone pour pouvoir commencer. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, les taux de pénétration du smartphone au Togo tournent autour de 65%. Nous accompagnons, par exemple, 1200 groupements actuellement de volontaires sur tout le territoire. Et au moment de la phase pilote que nous avons eue, nous avons segmenté la population en population urbaine, périurbaine et en population rurale. Ce que nous avons remarqué, effectivement, c'est que parfois, même on se retrouve dans... Ça nous a permis de réadapter l'application. On s'est retrouvé même où, parfois, les femmes qui participent beaucoup à ces groupements d'épargne et de crédit n'avaient même pas de numéro de téléphone. Et ils utilisaient souvent le numéro de téléphone de leur mari. Mais comment les intégrer malgré tout dans le système? Donc, on a fait des tests. Oui, pour répondre à votre question, il faut au minimum un appareil
smartphone
et ça suffit largement pour couvrir tout un groupe.
D'accord. Magola?
Non, je crois que l'un des promoteurs l'a dit que c'est une solution magique et vu les définis, enfin le développement fait, je crois quand même que s'il avait à recréer, n'est-ce pas, cette application, je crois qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Parce que beaucoup de Togolais sont exclus du système bancaire, évidemment, alors que quand on sait qu'il y a un peu plus de 1500 milliards qui sont là, qui viennent dans le secteur informel, il y a quand même de bonnes raisons de pouvoir restructurer ce secteur-là pour que le Togolais lambda même puisse en bénéficier. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, telle est que la solution est accessible à tous les Togolais, comme vous l'avez pensé, Muri. Maintenant, je voudrais savoir, au bout du rouleau, comment se fera le retrait, par exemple?
Oui, c'est tout bas.
Non, aujourd'hui, nous avons la chance, parce que la première question qui nous a été opposée lorsque nous avons démarré cette initiative, c'est que l'argent va où? Je crois que c'est l'une des questions qui taraude l'esprit de toute personne. Quand on cotise, surtout de façon virtuelle, c'est de savoir l'argent va où. On les rassure tout de suite. D'abord, nous avons un partenaire stratégique qui est le groupe EcoBank, qui nous accompagne dans toutes les intégrations que nous faisons. Et c'est ce groupe bancaire qui nous offre ce que nous appelons dans le jargon le compte de cantonnement. Donc les fonds sont domiciliés auprès de cette institution bancaire. Ça n'empêche pas qu'un jour, ça soit domicilié auprès d'autres banques de la place. Donc ça, c'est déjà une forme de crédibilité et de sécurité des fonds que nous collectons auprès des citoyens. Donc quand vous êtes adossé à un partenaire stratégique qui dispose également d'autres moyens de paiement. Vous avez les cartes Visa, vous avez les Mastercard, etc. Aujourd'hui, avec le partenariat que nous avons avec EcoBank, par exemple, il y a la possibilité dans le processus de retrait de pouvoir utiliser votre carte Visa, même pour cotiser, parce que quelqu'un qui n'est pas au Togo, c'est un Togolais qui est dans un groupement, dans une association, il peut être à l'extérieur et il veut contribuer dans l'association, il a la possibilité d'utiliser sa carte Visa ou bien sa carte Mastercard pour pouvoir contribuer. C'est pour vous dire que personne n'est laissé sur le carreau. Et même pour le retrait, il peut également utiliser ses moyens de paiement ou bien au guichet automatique des banques pour pouvoir retirer de l'argent lorsqu'il en fait la demande, tout comme il peut utiliser les moyens digitaux comme le mobile money, comme T-Money ou Flouze. En même temps qu'il l'utilise pour faire le dépôt, il peut également l'utiliser en exprimant sa demande de pouvoir faire le retrait. Je voudrais ajouter que nous devons être fiers de cette application parce que la dernière revue de la BCAO, c'est 10 fintechs dans tout l'UMOA qui ont reçu l'agrément. Il n'y a que 10 fintechs dans tout l'espace UMOA qui ont reçu.
Vous êtes la seule à recevoir cela au Togo.
Nous sommes la seule fintech togolaise.
Il faut
insister là-dessus. C'est des promoteurs togolais. C'est une fierté parce que comme l'avons dit sous d'autres cieux, l'inclusion, c'est un élément important aujourd'hui de la gouvernance publique. Et nous ne comptons pas uniquement sur le nombre, mais c'est vraiment les facilités que nous apportons aux concitoyens auxquels nous faisons appel pour la collecte de l'épargne.
D'accord. Amras?
Non, les deux ont pris
en compte alors justement ce que...
C'est une bonne initiative.
Voilà. Et par rapport à la question surtout de Magloire, je voudrais demander, c'est vrai tout récemment, il y a la BCAO qui a lancé ce que nous appelons les services alors de paiement instantané. Alors finalement, qu'est-ce que ça donne à votre service, M. Maouna?
Oui, ça veut dire, et pour répondre à la question de votre confrère, aujourd'hui, Ohana, c'est un guichet ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez... contrairement aux autres options, sortir votre argent à n'importe quel moment quand vous en avez besoin. Et le système de la BCAO dont vous parlez tout à l'heure, qui est une innovation majeure, c'est le PSP, donc c'est le système interopérable.
Oui, allez-y.
Oui, c'est le système interopérable de paiement instantané de la BCAO qui permet aujourd'hui à franc zéro, donc la BCAO aujourd'hui pour les dépôts, les retraits et les transferts à frais zéro pour les nationaux, pour tous les transferts nationaux. On peut faire un dépôt vers EcoBank, la BOA, la Bank of Africa, la BTCI, donc qui est devenue donc IB Bank. Tous les transferts interbancaires sont gratuits. Les transferts entre les mobile money, c'est gratuit. Et on a notre partenaire EcoBank est pratiquement la seule banque aujourd'hui qui a intégré dans tous les pays de l'UMOA le système de paiement instantané de la BCAO.
D'accord.
Et nous l'intégrons très prochainement aussi dans nos solutions.
D'accord. Monsieur Touba, nous sommes à la fin de cet entretien. Et si vous avez un mot à placer par rapport surtout à l'intérêt ou à l'avantage que présente cette application au Togolais, qu'est-ce que vous allez leur dire aussi la manière dont l'inscription ou pour souscrire à cette fintech, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ohana signifie en fait famille où personne ne doit être laissé de côté. Tous ceux qui se sentent exclus du système bancaire classique ou financier classique aujourd'hui et qui n'ont pas la possibilité, comme il a dit tout à l'heure, d'avoir accès à leur dépôt, bien à leur argent à tout moment, parce que c'est ça aussi le plus compliqué. Vous pouvez contribuer, faire de l'épargne, mais lorsque vous voulez le retirer, c'est là où ça devient compliqué parfois. Il y a tout un temps fou. Il faut plus qu'ils se sentent exclus. Je les invite tout simplement à aller sur un smartphone et à télécharger l'application Ohana Africa, O-H-A-N-A, Africa à part, et suivre le processus. On pourra donner nos numéros de téléphone. Et on a un site internet également et donner nos numéros de téléphone en cas de besoin.
Monsieur Ouna?
Oui, effectivement, nous parlons beaucoup d'argent avec notre application, mais en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, l'application Ohana, pour beaucoup de gens, c'est les groupements, et les groupements sont devenus la première personne. Quand vous avez une naissance aujourd'hui, les premières personnes parfois à venir vous rendre visite, c'est les membres de votre groupement ou c'est le membre de votre chorale. Et c'est au-delà de la collecte de l'épargne. Nous avons vu dans l'application, nous sommes six ici, c'était quatre enfants d'une même femme qui ont dit, nous créons un compte Ohana pour notre maman. Et chaque enfant mettait de l'argent dedans qu'il remettait à leur maman chaque mois, de façon automatique. Donc c'est ce genre de lien humain que l'application permet de faire.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koutonet et Maouna, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Olo Africa. Merci, hein, vous nous avez donné des explications justement alors sur Olo Africa et aussi l'application Rana. Et on en a parlé. Monsieur Touba Tanama, merci d'être passé aussi dans cette émission. Toutefois, vous pouvez rester avec nous puisqu'à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs et sûrement ils auront des questions à vous poser. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, chers confrères, nous revenons pour nos débats, bien sûr, en studio. Ambroise, nous commençons justement le débat avec ce sujet que vous évoquez aujourd'hui à la une de votre journal. Vous écrivez « Adhésion forcée à l'ordre des médecins assortis du ultimatum » et vous mettez également à la suite, à l'ordre de cela, un faux signe dans un État libéral qui révèle des incongruités et qui cache des non-dits avec la photo alors du ministre de la Santé à la une alors de votre journal, professeur Tindare, vous mettez justement sa photo. Je sais que tout récemment, le professeur a fait sortir justement une note pour demander à tout praticien, surtout de la santé, d'intégrer un ordre donné, bien sûr. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit.
Oui, d'abord, on se demande quel intérêt le ministre a à appuyer le fait que les médecins entrent dans un ordre. Il y a conflit d'intérêts. D'abord, le professeur, il est médecin. Et si c'est lui qui le dit, ça suppose qu'il a un intérêt à gagner dedans. Alors, l'Ordre des médecins est une association ou un syndicat? Si l'Ordre des médecins est une association, on ne peut jamais obliger les gens à rentrer dans un ordre. Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est que l'ordre est créé pour l'intérêt du patient ou pour l'intérêt des médecins. Les médecins existent pour qui? Un médecin existe pour le patient ou pour le malade. Pas pour le médecin eux-mêmes. Si eux-mêmes, ils ont des choses à se dire entre eux, je ne crois pas que ce soit contre l'intérêt du patient. Parce qu'un médecin qui a suivi un parcours, j'imagine, 10 ans, voire 12 ans pour les spécialistes, ou pour les spécialités, et qui devient médecin, après avoir prêté serment, le serment d'Hippocrate, qui remplit toutes les valeurs, et qui a... Je ne vois pas un médecin aller à l'encontre de ce serment et faire autre chose. Alors, le médecin qui est là, qui sert aujourd'hui un patient, qui est dans un hôpital, ou qui est dans une clinique privée. Si le ministre dit aujourd'hui, ok, vous qui voulez travailler dans le privé, vous n'avez plus à mettre le pied dans le public. Donc, nous sommes dans un État libéral, et l'État libéral suppose qu'on a une liberté individuelle, reconnue par la Constitution. De deux, si on fait un contrôle de constitutionnalité du code des médecins, les trois éléments, les trois codes là, dont on parle, il y a un problème de vice. Parce que le contrôle de constitutionnalité va révéler des incongruités liées à la loi là. Ça suppose que la loi nous donne une liberté, une mal de liberté dans un État libéral. Maintenant, aujourd'hui, on dit à tout le monde, allez rentrer dans un parc, tout le monde va rester là-bas. Alors que celui dont on parle travaille pour quelqu'un. Il travaille pour qui? Il travaille pour un patient, un malade. Tout comme le médicament doit attendre le patient et non le contraire au niveau des pharmaciens. Et donc, il y a tellement de questionnements que nous avons fait. Si eux-mêmes, ils lisent ça, ils vont se rendre qu'il y a un problème. C'est-à-dire, peut-être les gens bossent pour leurs propres intérêts et non dans l'intérêt du patient. Vous allez voir quelqu'un qui est cancéreux, qui est dans un dans une clinique ou dans à l'hôpital, à Tocoin ou quelque chose comme ça, et on lui dit, madame, amenez 1 million, amenez 200 000. Ça, c'est juste un exemple qui sort d'un autre angle que je suis en train de sortir. Mais ce malade-là, moi, j'en ai vécu. Je suis allé chez la dame, là, le vendredi, le dimanche, elle meurt. Ce que j'ai vu dans un seau, la quantité de sang que j'ai vu, toute la journée, je n'ai pas mangé. Le monsieur est un homme qui a de l'argent. Il a dépensé plus de 5 millions. Mais la dame est décédée. Le médecin n'a jamais le courage de dire au monsieur que votre femme, tôt ou tard, va mourir. Mais on fait dépenser de l'argent. Moi, j'ai un cousin dont sa fille est en classe de 3e qui souffre d'une leucémie pendant, ça fait pratiquement 8 mois. Je ne vous dis pas ce qu'il dépense. Il a vendu ses terrains pour ça. Dans la salle où l'enfant est hospitalisé, chaque jour, on sort des gens qui meurent. Est-ce que c'est le fait de rentrer dans un monde qui va guérir ces gens-là qui meurent? Il ne faut pas qu'on nous ramène des histoires des années 70, des histoires des années Mathusalem. Nous, on a sorti des questionnements, plus de 10 questions. Si ceux-là qui dirigent l'ordre des médecins, je n'ai rien contre eux, ils font le travail, il y en a qui travaillent très bien d'ailleurs. S'ils lisent les questionnements-là, je crois qu'ils vont, soit ils vont dissoudre leur ordre-là, ou soit ils vont réorganiser la chose pour que l'encadrement soit fait pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que la preuve, l'ordre est là, mais il y a des morts à Dr. Lafia, l'hôpital ou privé le plus haut du pays. Il y a des morts dans l'hôpital, le CHU de Coin, CHU, Sylvanus Olympio, ou Campus, il y a des morts. Et donc, ce n'est pas le fait de rentrer dans un ordre qui dispose le malade, excusez-moi, de la mort. Si c'est ça, donc on n'a pas intérêt à forcer les gens à rentrer dans un creuset où le malade crie toujours sur sa maladie et qui meurt toujours, finalement, à la fin, étant mieux pour ceux-là qui sont sauvés.
D'accord,
le même médecin.
D'accord. Magloa, est-ce que déjà quand on prend un ordre, souvent, c'est vrai, dans toute catégorie professionnelle, on pourra retrouver alors des ordres. Et ces ordres-là sont là justement pour que, du moins, les dérapages ne soient pas là. Et, c'est-à-dire, il y a des règles à observer dans chaque métier ou dans chaque profession et que l'ordre est un garant ou du moins ce qui assure en quelque sorte la faisabilité ou l'application même d'ailleurs de ces règles. Donc on en a besoin.
Oui, a priori, parce que vous savez, nous vivons dans une société où personne ne saura vivre en autarcie. Et dans chaque corps de métier, il y a des regroupements. Et l'idéal même serait que vous appartenez justement à une même famille corporatiste régie par des lois, des règlements internes pour que ça ne va pas dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est dans cette idée ou dans cette perspective que la sortie du ministre, je ne sais pas si à cela que ça répond. Mais c'est pratiquement une injonction, comme le confrère vient de le dire, là, il y a à se poser des questions. Parce que je me dis, même les associations, les ordres, tout ça, avant tout, c'est des initiatives personnelles. Même si vous appartenez à une même famille corporatiste, je l'ai dit, l'idéal serait que vous soyez ensemble pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais en réalité, on serait contraint personne. Maintenant, si c'est une nouvelle idéologie, il y a une bonne philosophie derrière. Je crois qu'il serait tout simple de convoquer tout le monde, de discuter. Mais en discutant, on peut étayer, du moins faire dissiper les incompréhensions, expliquer à fond sa philosophie. Et je crois que quand c'est fait comme ça, même, vous savez, on n'a pas le même niveau de compréhension parce que le quotient intellectuel de l'humain, tout le monde n'en a pas. Le quotient au même niveau. Chacun, les élèves par exemple, vous expliquez déjà en classe, quelqu'un peut comprendre. Il y a l'autre qui, il lui faut un cours de soutien ou de répétition, et après d'autres vont comprendre après. C'est comme ça l'humain. Donc moi, fondamentalement, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais je me dis, si c'est pour mieux organiser le secteur médical au Togo, mais pourquoi pas? Mais que ça ne soit pas une action contraignante, c'est-à-dire que soit vous faites partie de l'ordre et que bon, ce sera Alice au pays des merveilles pour vous, ou alors vous ne le faites pas et puis bon, vous allez retrouver garçon devant vous. Ça, si c'est cette approche qu'on veut adopter, Je crois que c'est mal parti.
Jean-Legrand Paul-Rémy, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être dans un ordre en matière alors de profession?
Non, moi j'ai dit que toute profession doit être régie par des textes et puis il faut des instances fêtières pour que tout n'aille pas en vrille. Et moi, dès que j'ai eu l'information, quand j'ai essayé de fouiner un peu, il a été dit qu'il y a beaucoup qui se disent être médecins, mais qui n'ont pas les qualités requises qu'il faut.
Vous avez... Et là, c'est bonjour les dégâts.
Bonjour les dégâts. On a appris des informations comme quoi les gens sont partis dans des cliniques dites sauvages, soignés par des gens avec des méthodes vraiment hors du commun, et après décès, ça en est suivi. Je crois que c'est l'une des raisons principales qui ont motivé le ministre et les responsables de l'ordre à ce que tout le monde puisse vraiment intégrer cette fêtière. Parce que moi, je dis, à un moment donné, il faut quand même qu'on tape du poing sur la table. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas... il faut qu'on prenne des initiatives pour protéger la population. Mais si on sait que tout le monde, tous ceux qui exercent en fait de façon légale, font partie de l'ordre, on a des moyens de coercition sur la personne en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais quand ça va toujours à volo dans un quartier X, n'importe qui se dit « je suis docteur », mais quand le patient aussi vient, le patient peut chercher à savoir « est-ce que vous êtes inscrit à l'ordre ?» Ce qui prouve que vous avez la qualification requise pour me soigner. Mais si vous n'avez pas ça, et je suis toujours en danger. Je crois que peut-être qu'il va falloir éclairer davantage ceux qui sont un peu réticents à intégrer l'ordre, et pour qu'on puisse faire tomber les appréhensions, les préjugés, et faire comprendre quand même le bien fondé de la chose. Parce que souvent, c'est le manque d'informations qui fait que parfois, les gens sont braqués ou ont des appréhensions.
D'accord. Oui, oui, je ne partage pas l'avis de Jean. Son avis est libre. C'est moi qui ai sorti un dossier. Et quand vous voyez même la réaction, j'ai des réactions. Quand j'ai publié le journal dans plusieurs... sur plusieurs plateformes. Mais les gens sont intelligents, hein. Les questionnements que moi j'ai faits ici, il a dit quelque chose. Je crois qu'il faut faire la nuance entre créer un ordre pour que les médecins... Quelqu'un, toi tu es médecin. Le professeur derrière sait que tu es médecin. Il sait que tu as suivi le même parcours que lui. Il sait que tu as ton diplôme de médecin. Tu l'as même peut-être fait en France mieux que lui. Maintenant, toi tu gères ta clinique quoi. Hein? Ou tu travailles dans une clinique. Tu fais même du bon travail. Maintenant, est-ce que tu es obligé de rentrer dans un ordre pour travailler sur la vie du patient, sur la santé du patient? Ça, c'est un.
On connaît un médecin. Mais oui, en plus, là, la question, c'est quand vous rentrez même dans un ordre, oui, quel serait l'avantage?
Justement, quand vous rentrez, la question est très bonne. Quand vous rentrez dans un ordre, quel serait l'avantage? On va vous amener des patients. Il a dit quelque chose. C'est pour cadrer ceux qui sont des brebis galeuses. Les brebis galeuses se retrouvent aussi dans cet ordre-là. Vous voulez que je vous donne des exemples? Il y a un médecin. Lui n'est pas une brebis galeuse. Sauf que lui, il est peut-être mieux que eux. Peut-être, il y en a plusieurs dans cet ordre-là. Moi, je n'ai rien contre eux. Le médecin arrive à traiter le cancer. Vous imaginez qu'on a tout fait pour chasser ce médecin qui s'est réfugié à Dakar?
Et pourquoi?
Oui, posez-vous la question. Il y a des confrères qui savent ce dossier-là. Le médecin a commencé par interagir sur les médias ici, au Togo ici. Les gens sont allés jusqu'à la HAC pour demander qu'on interdise son émission. Je sais de quoi je parle. Bon, je dépose ça sur un mur. Je reviens toujours, j'insiste. Quand Ambroise Pongio sort un dossier, c'est qu'il a fouiné dans le dossier. Et rien ne peut. J'attends même le procès de Tindaré devant moi pour qu'on puisse se confronter, tout l'ordre du médecin, même le président. Il ne peut pas s'en sortir avec les questions que j'ai posées. Parce que le médecin là pour le patient et non pour les moutons. Si le médecin là pour le patient, c'est le patient qui a demandé à ce que les gens rentrent dans un ordre d'abord. Je comprends qu'il y ait des cliniques sauvages. Il faut les interdire, d'accord. Je comprends qu'il y ait aussi qui se disent
docteur. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer aussi par l'ordre pour interdire cela?
Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Quelqu'un qui se dit médecin, montrez les papiers, prouvez-nous que vous êtes médecin. Vous servez dans quelle clinique? Tout comme on vient contrôler les gens, on sait qu'il est médecin. On n'est pas obligé de rentrer dans un ordre pour traiter un patient. La preuve, il y a plusieurs cliniques qui sauvent des vies dans les quartiers. Quand vous allez à Ségué, par exemple, un matin, quand vous arrivez dans une période de palud, vous allez voir au moins 200 personnes alignées. Quand vous venez, il y en a un qui est décédé en 2023. Comment ils étaient en rang, le monsieur il s'est effondré, il est mort parce que les gens sont nombreux. Avant qu'on atteigne à son niveau, il est déjà décédé. Parce que il y a des gens qui viennent de Clémé, des Anguera, de Ségbégan, de Ségbé, d'Akato, tout ça là se regroupe dans ce CMS de Ségbé qui n'est pas grand. Alors les cliniques qui sont là, vérifiez s'ils ont les éléments que le monsieur a formé, il a été formé ou est-ce qu'il travaille bien.
Je crois que ça peut sauver des vies. Pensez aux patients, aux malades, que de penser à l'ordre. Supposons, je prends le temps du Covid, au temps du Covid. Ce que les professeurs Covid, ils ont fait sur les médias là. Qu'est-ce qui s'est révélé après sur le Covid? Qu'est-ce que Donald Trump a dit par rapport à l'OMS? Il y a plein de choses que nous avons publiées dans l'article. Hein. Donald Trump a même fait sortir son pays de l'OMS. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont dans un réseau là, dans un creuset là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a plein de choses. L'on n'est pas obligé de rentrer dans un monde pour soigner un patient.
D'accord.
J'insiste et je martèle ça.
D'accord. Merci. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Justement, ils vont lire cela dans le journal des Guadiens Paris aujourd'hui. Alors, Magloire, on va aborder un autre sujet. On aborde un peu l'économie. J'en parlais déjà en début à l'heure d'émission. Il y a justement cette rencontre à l'heure du Conseil national du crédit qui a eu lieu à Lomé. Et la conclusion de cette rencontre, c'est que malgré les risques qui pèsent sur la conjoncture économique mondiale, l'économie togolaise demeure résiliente et c'est bien sûr l'une des conclusions. Et dans le détail, le taux de croissance est attendu autour de 6,3% en 2025 avec une contribution soutenue de l'ensemble des secteurs, en particulier le tertiaire. Et par ailleurs, le secteur financier maintient son dynamisme avec une progression notable de 22% des crédits bancaires nouvellement octroyés. Et on a vu même d'ailleurs cet exploit avec l'indice alors de développement humain IDH et son résultat tout récemment où avec ce rapport du PNUD, on comprend que le Togo est au deuxième rang par rapport à l'UMOA et quatrième rang par rapport à la CEDEAO. Mais vous titrez justement aujourd'hui sur le sujet sur votre éditorial, vous titrez le Togo va mal et c'est ce que vous écrivez à Magloire.
Oui, parce que il faut quand même à un moment donné qu'on commence par se parler vrai, c'est-à-dire adopter un langage de vérité. Vous avez fait tout à l'heure allusion à la visite de cette de la commission de crédit, c'est ça?
Oui.
Et beaucoup de chiffres.
Le Conseil national du crédit.
Exactement. Ce qu'ils ont fait, je ne suis pas un économiste, mais ça s'appelle un peu du chiffrisme. C'est-à-dire sortir beaucoup de chiffres, comme M. Doucet l'a fait l'autre fois à la tribune des Nations Unies. Et après, on retient quoi? Que le Togolais vit bien? Non, le Togolais ne vit pas bien. C'est d'ailleurs pourquoi nous titrons à notre éditorial que le Togo va mal. Et ça, je ne sais pas qui peut le dire si ce n'est pas nous qui vivons au pays.
Mais là, Magloire, vous ne nous donnez pas des chiffres également pour nous dire que le Togo va mal.
Des chiffres, oui. Le Togo deuxième à l'espace, enfin au niveau de la CEDEAO, quatrième, au niveau de la CEDEAO deuxième, au niveau de l'UMOA, c'est bien. Je l'ai toujours dit, moi je suis togolais. Hein. Quand on me dit mon pays est premier dans un classement, il dit je suis le plus heureux. Mais la réalité, est-ce que je sens ça? Pascal, tu sens tous ces rapports qu'on nous sort au quotidien? Tu le sens? Non, en réalité, c'est ce que je dis. Il faut commencer par se dire la vérité. Parce que c'est bien bon que les dirigeants, eux, c'est des acteurs politiques. Nous ne l'oublions pas. Eux, ils ont un agenda politique. Et aucun politicien n'a d'intérêt à afficher un tableau qui soit un peu noirci. Voyez-vous? C'est cela, l'acteur politique. Et donc, il est dans son game, comme on le dit. Mais, au-delà de l'acteur politique, il y a dans chaque société d'autres observateurs, d'autres analystes qui ont l'éthique et la morale en face. Je vous rappelle que en France, il y a quelques années, on commençait par parler de la moralisation de la vie politique parce qu'à un moment donné, on diagnostiquait cela. Et nous ne souhaiterions pas que ça vienne au Togo. Prenons tout simplement le secteur de l'éducation. C'est vrai, il y a des éclaircies. Ça, on le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Lorsque quelque chose est fait de bien, on doit le dire. Quand on prend la PIA, la plateforme industrielle d'Atiticopé, quand on me dit aujourd'hui que du champ, on peut prendre le coton du cotonculteur pour que ça sorte en chemise ou en t-shirt à Atiticopé, je dis je suis content. Vous me voyez rejeter cela comme quoi le Togo n'a pas fait des efforts? Je dis non. Mais prenons par exemple sur le plan culturel, artistique. Est-ce que nous avons une salle de spectacle au Togo? Non. Sur le plan sportif. Est-ce que nous avons un stade? J'ai dit non. Le stade de Kégué, il y a quoi? Il y a un quart de siècle qu'on l'a construit. Et c'était par rapport aux réalités de l'heure. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans. Le stade de Kégué...
Mais le stade a été réaménagé.
Réaménagé et tout. Mais vous voyez un peu ce que c'est qu'un stade. Est-ce que le Togo n'a pas les moyens de s'offrir un stade plus huppé, plus responsable que le stade de Kégué? Parce qu'à part le stade de Kégué qui nous sauve aujourd'hui, il n'y a pas d'autre stade. Hein. Le municipal, vous ne pouvez pas jouer un match international là-bas. Beaucoup de secteurs de l'éducation et de la santé, il y a des insuffisances. Et maintenant, au plan social, au plan de l'économie, tout à l'heure, nos invités nous l'ont clairement dit. Dans le secteur informel, il y a plus de 1500 milliards qui sont là, qui ne sont pas structurés. Alors qu'on sait que s'il y a une bonne politique de l'économie, qu'on met en place une bonne gouvernance qui est là, qui régularise ça, je crois que on peut surfer sur cet argent qui circule dans le secteur informel pour développer notre pays. On n'a pas besoin d'aller prêter de l'argent auprès de la Banque mondiale pour distribuer des fournitures aux élèves. Je dis non. Avec tout ça, en tant que Togolais, qu'on permet que je dise que le Togo va mal. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Que la mission qui est actuellement dans notre pays peint le tableau en tout blanc, c'est de bonne guerre. Mais je dis, le Togolais lambda vous dira...
Alors, quand vous dites que c'est de bonne guerre, est-ce que ça veut dire que finalement, ils sont dans leur rôle?
Ils sont dans leur rôle. C'est des partenaires. Ou bien vous ne comprenez pas ce que j'ai dit?
Je vous comprends.
La Banque mondiale, le FMI et toute leur clique, ils sont des partenaires aux États. C'est pourquoi, quand vous avez peut-être un problème avec un État, vous ne verrez jamais le FMI ou la Banque mondiale se dresser, enfin, s'aligner derrière des individus. Parce que les États, c'est leur partenaire. Voyez-vous, tout ce qu'ils font. Mais quand la Banque mondiale fait des prêts à des pays, c'est à des taux. C'est-à-dire on va rembourser même à des taux parfois exorbitants. Voyez-vous. Donc, c'est pourquoi je dis, oui, eux, ils sont dans leur monde. Ils font ce qu'ils veulent faire. C'est du chiffrisme, d'accord. Mais la réalité telle que les Togolais les vivent, c'est que il y a des efforts qui sont faits, mais qu'on reconnaisse quand même que le pays, pour le moment, va mal. D'accord. Et je vous le dis, peut-être on va en venir.
Oui, oui, mais quand vous dites que le pays va mal, vous vous souvenez quand même des propos de la déclaration alors du ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies, lui qui dit plutôt que le Togo va bien. Et Jean-Legrand Polrigny, vous êtes revenu bien sûr sur les propos du ministre ce matin. Vous écrivez Robert Doucet aux Nations Unies, le Togo va bien. Entre progrès affichés, défis persistants, la toile s'enflamme, le Togo va-t-il vraiment bien? Des indicateurs au vécu quotidien, qui parle mieux?
Oui, c'est la question que nous nous posons. Vous savez, dès la fin de la prise de parole du ministre Robert Doucet, on a observé sur la toile vraiment une levée du bouclier. C'est à croire que on avait en face de nous deux Togo. Le premier Togo qui va bien, présenté aux Nations Unies, et l'autre Togo que le citoyen lambda connaît. Nous disons que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, qui ont été affichés. Il y a du mieux comparativement dans certains domaines par rapport à une décennie, deux décennies précédemment. Mais de l'autre côté, quand vous voyez les chiffres que certains sortent, quand vous voyez la réalité au quotidien, parce que dès que la vidéo du ministre est sortie, ben, vous avez vu les gens ont opposé directement. Des vidéos où on voit des écoles en paille, où on voit des eaux sales, où les humains boivent avec les animaux. On a montré des vidéos où il est difficile pour le citoyen lambda de se soigner. Tout à l'heure, Ambroise parlait du CMS de Segbe, où les gens sont agglutinés. Mais quand vous avez suivi le ministre, il parle d'une accessibilité géographique en matière de santé de 90% et quelques. Moi, je me suis demandé, bon, quelque part, est-ce qu'on est dans quel Togo, en fait? Bon, j'étais émerveillé en suivant les chiffres, mais quand je suis redescendu au Togo, je vois dans le quartier, je vois dans les villages, je vois là où moi-même j'ai été, je me dis, mais à un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que peut-être on a donné des chiffres qui ne concordaient pas au ministre? Parce qu'il faut comprendre que quoi, le ministre est dans son rôle de politique. Lui, son objectif, c'est de vendre le Togo. Et on est à la tribune des Nations Unies.
Mais en vendant le Togo, il faut quand même, on peut dire qu'on a fait des efforts. Mais encensé jusqu'à un certain niveau, mais les gens vont vous sortir des vérités pour vous clouer au pilori. On ne dit pas qu'un adulte ment. Mais avec les vidéos qui sont sorties, je vous laisse conclure vous-même ce qui a été dit. Jerry Tama qui dit que ben, on a comme l'impression que le Togo ne va bien qu'à l'ONU. Et il y a un autre acteur qui est André Kanyi Afanou qui dit que ce discours en fait retarde les réformes et brouille les pistes. Parce que on a comme l'impression que on veut présenter un Togo qui a tous les chiffres, qui tout va bien. C'est vrai, avec l'indice de l'IDH, on est aujourd'hui un pays à développement humain moyen. C'est vrai, c'est des chiffres. Mais maintenant, au niveau du vécu quotidien, on a comme l'impression que ce qui est dit dans les chiffres ne se retrouve pas dans la réalité. Et beaucoup font le procès au gouvernement d'opter pour une gouvernance statistique au lieu d'opter pour une gouvernance dans la pratique. Mais quand on dit que le Togo va bien depuis 5 mois, on n'a pas de gouvernement. Comment le Togo peut aller bien quand depuis qu'on a fini les élections, on n'a pas de maire? C'est autant de questions que les gens se posent et on a comme l'impression que véritablement, il faut qu'on redescende. Il faut qu'on redescende et qu'on pose les vraies bases du développement. Parce que il ne servira à rien qu'on se présente de l'autre côté comme un pays où le lait et le miel coulent, mais en même temps à l'intérieur, on a des soucis. D'accord. Mais je comprends que le ministre était dans une posture de répondre à l'international parce que comprenez qu'il y a quelques mois, le Togo a traversé une crise où les gens ont avancé beaucoup de choses et le ministre était dans l'optique de rétablir la vérité. Ben, je crois qu'à quelque part, les chiffres se sont un peu embrouillés et on a plutôt versé dans, je vais dire, le ridicule par rapport aux vidéos qui ont suivi après. D'accord. Et ça n'honore pas notre pays. D'accord. Qui ait de telles réactions sur les réseaux sociaux. D'accord. À l'encontre d'un ministre. D'accord. De la République.
Ambrose, vous avez l'impression que les chiffres évoqués par le ministre des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU et la réalité, ça ne concorde pas?
D'abord, demandons-nous si nous sommes dans un État. Parce que c'est l'État qui a envoyé le ministre du CELA là-bas en tant que ministre des Affaires étrangères.
Et comment ça? Nous sommes dans un État.
On n'est pas dans un État actuellement. Parce qu'un État, Pour un étudiant de la première année de droit, c'est un territoire, c'est une population et c'est un gouvernement qui exerce son pouvoir. Actuellement, il a dit, dans 5 mois, on n'a pas de gouvernement. Donc, on n'est plus dans un État. Ça, c'est le premier élément.
Mais on a un gouvernement qui a démissionné, bien sûr, et qui...
Qui n'existe plus.
Et qui joue les affaires courantes, bien sûr.
Et un gouvernement dont les ministres prennent des décisions importantes en tant qu'éditeur d'affaires courantes. Ça, c'est le Togo qu'on peut trouver ça. Premier élément. Second élément, tout ce qu'il a raconté devant les gens, parce que on est dans un paternalisme, au même moment on est panafricain, tout ça là. Ça y est, j'ai dit que quand vous voyez les singes dans les arbres guimbardés là, vous allez voir en réalité que l'illustration n'est pas loin de ce que Doucet a présenté la dernière fois. Je suis sérieux. Je reste sérieux. Moi, c'est des gens que j'aime bien parce que au moins, ils ont fait quelque chose. Je l'ai toujours dit que Pacha Akpo, quand le coup a fini sa vie, qu'est-ce qu'il fait? De deux, quand vous êtes maudit, tout ce que vous touchez est maudit. Donc, pour dire que la preuve, Ambrose a dit des choses, excusez-moi.
Oui, Ambrose,
mais je n'ai pas touché, je n'ai pas voulu rentrer dans le jeu de Doucet. Monsieur Doucet est allé faire du cinéma et du cirque. Nations Unies, comme quoi, avec, il a d'abord bon, c'est-à-dire que il s'est bien accoutré en africain, en togolais et en ghanéen, en névé, je crois.
Mais avec cravate et
oui. Tu vois, le mélange même, je ne voudrais pas employer le mot, le mélange même renvoie à autre chose. C'est-à-dire qu'il a mis cravate et il a en même temps fait accoutrement avec des kétés. Donc, pour dire que, est-ce que le monsieur tient bien bon même avant d'arriver là-bas? Donc, moi, j'aurais aimé, comme mes deux confrères l'ont dit, j'aurais aimé que le Togo avance. On est très en retard. Et ce qu'il a dit, Kanyi a dit quelque chose. Je l'ai lu sur le Facebook. Ce que Kanyi a dit est réel. C'est-à-dire que on habille les choses alors que les choses n'avancent pas. Le pire, c'est qu'on regresse, non?
Oui,
et les autres avancent. Les gens sont venus, ça fait 3 ans au Burkina Faso. Allez voir les tracteurs qu'ils ont achetés. Allez voir les bus. Le Ghana a déjà un train à grande vitesse. On n'a même pas une autoroute qui dessert du nord au sud. Même pas un chemin de fer. On n'a même pas un hôpital de référence. On n'a pas un stade homologué à Sokoro, à Kara, à Dakar.
On a Docteur Lafier.
Je ne veux même pas aller sur ce terrain. Donc, pour vous dire qu'en réalité, nous, on n'est pas dur pour être dur. Nous le faisons pour les amener à avancer. Et Fonia Sibé, je crois qu'il aime ça. Il faut qu'on me critique et de façon objective pour que je puisse avancer. C'est pourquoi, autour de lui, s'il y a des gens qui font du cinéma, d'abord, on les jette. Et je souhaiterais qu'il forme son gouvernement, même si lui-même n'est pas légitime là où il est, qu'il forme au moins un gouvernement qui existe. Parce que la dette intérieure, selon certaines sources, est lourde. Ce qui fait que les gens en paient le prix actuellement. On paie plus la dette extérieure. Mais intérieure, ceux qui ont travaillé, qui sont les Togolais, qui ont travaillé pour l'État, difficilement les paient.
D'accord.
Et les gens souffrent.
D'accord. Oui, c'est vrai que, Magola, vous êtes revenu, bien sûr, sur le sujet du retard hein, dans le gouvernement. Vous écrivez même désormais 5 mois sans gouvernement. Et ce serait, bien sûr, le 3 octobre prochain, c'est-à-dire demain, ce serait 5 mois. Mais nous n'allons pas aborder le sujet, puisqu'il est déjà midi. Nous allons donner la parole à nos auditeurs de s'exprimer aussi hein, sur le 90-86-35-35-91-36-63-115 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90-45-118-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90-86-35-35-91-36-63-75 et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, je salue tous les confrères.
Oui, c'est monsieur?
Je suis toi, Ambrose Pogno.
Oui, votre nom c'est?
C'est Karim le taximan.
Ah, Karim.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Ça fait longtemps.
Oui, allez-y.
Okay. Je voulais intervenir à propos de ce que le ministre a dit. Et il avait parlé des pistes et les pistes sont bien tracées. J'espère que la plupart des gens connaissent chez moi à la préfecture de Hao 4, précisément à Milleroy. Et la route a été faite depuis 2006-2007. Aujourd'hui, on est en 2025. Allez-y voir l'état de la route qui amène à Huileroué. Arrivé à Huileroué, demandez s'il y a l'eau potable à boire. Et le ministre permet d'aller sur, je ne sais même pas comment le dire, quand même, il faut avoir pitié de nous, quand même, il faut avoir pitié de nous. À un moment donné, si tu as tellement travaillé, il faut aller à la retraite. Même si ton président te dit de ne pas aller à la retraite, dis que non. Papa, ou bien boss, je suis fatigué. Je vais aller me reposer. Sinon, si tu veux continuer, ce que tu dois faire, ça ne serait pas bon. Merci à vous.
Merci Karim pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, je salue les deux sur la studio.
Oui, il vous salue aussi, votre radio, et ça fait du bruit, Basile.
Je vais parler avec le portable seul, je suis en train de le régler, ce volume-là, mais ça n'arrive pas. Bon, moi, je veux demander, les pays dans lesquels les partis d'opposition ne laissent pas le gouvernement inventer ces chiffres à tout va. Mais ces partis d'opposition des autres pays-là, eux, ils font comment? Parce que tout ce que nous disons, moi, je pense que l'opposition s'empare dedans. Hein. C'est ici seulement que le gouvernement peut aller s'offrir un classement, venir, et puis nous tous, nous sommes là, et puis on regarde. Mais ce classement fantaisiste qu'on attribue à ce pays, alors que nous n'arrivons même pas à manger une seule fois par jour. Mais pourquoi est-ce que l'opposition va être là, la main au menton, en train de regarder? Bah, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose là. Merci.
Merci, 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Natema.
Oui, Natema.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Je vous salue tous là-bas.
D'accord. Allez-y.
Et je salue Ambroise particulièrement et Jean Legrand, le ministre des Affaires étrangères. Il est dans son rôle. Son maître l'a envoyé, il va dire quoi? C'est normalement, nous, la population, l'ONU devait choisir une personne de la une personne en plus, lui, une personne neutre pour parler. Voilà. Tout ce qu'il a dit, c'est bon. Il s'est défendu. Parce qu'il défend son père. Il défend aujourd'hui là, tous, à Durovie, les pourquoi ils sont partis, ils ont menti, non. Mais la réalité est là. On enferme les gens. Est-ce qu'ils peuvent cacher le soleil? Tout ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas cacher le soleil. Ils vont enfermer. Ils vont toujours mentir. Mais le problème du Togo, il est là. Il est là. Tout ce qu'il a dit là, il ne sent pas les araignées seulement sur tout le pays. Il dit que la lumière, les branchements, il y a où la lumière? C'est des araignées. Il a plu avant hier. Est-ce qu'il y a les routes à Lomé? Non. Il faut, quand on est malade, il faut dire quand même que bon, on fait un peu, je suis malade. Mais j'ai fait un peu, je ne me sens pas bien. C'est là où il est parti, il dit là. C'est là-bas qu'on peut l'aider, non? L'ONU, là, il peut nous débloquer l'argent s'il disait que non, que mon pays, on a fait un peu, mais aidez-nous. S'ils ont fait aussi, c'est beaucoup ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont qu'à partir aussi. Au Ghana, ils partent. Au Bénin, ils partent. Partout, ils partent. Ou bien, pourquoi eux, ils ne veulent pas partir?
D'accord, merci beaucoup, Natema, pour votre intervention. 90-86-35-35. Bonjour, Pascal. C'est normal. Il est un ministre de l'extérieur et non de l'intérieur. Il ne connaît pas le vrai Togo. C'est Georges qui nous écrit depuis CB. 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, madame ici.
Moi, je rigole ici, quoi. C'est tout de Basile, voilà, quoi. Basile disait tout à l'heure qu'il faut que l'opposition fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire, là. C'est qu'on se rassemble en partie civile pour porter plainte contre les gouvernants qui nous gouvernent comme du bétail. Leur mandat est fini depuis 10, 20, 30, 40 ans. Ils nous prennent pour des caves et les institutions sont périmées et ça sève dessus, ça s'accroche et ça nous opprime, ça nous torture. Et il n'y a qu'à se constituer parti civil, porter plainte parce qu'ils ont des wagons de délices à répondre, quoi. Et vous avez parlé du dossier chez à l'ONU. Oui, mais il est parti dire ça avec la complicité des ambassades et de l'ONU qui se trouve au Togo, là, depuis 80 ans. Et il est parti dire ça là-bas pour recevoir encore de l'argent. C'est un régime cupide. Hein? Ils aiment l'argent. Et comme ça, les ambassades ici, l'ONU, ils sont complices. On va encore injecter de l'argent pour la brinque. Et nous, on va en partie. Il faut porter plainte et tout.
Merci, madame Essi, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
Monsieur Jérémy de Lagos.
Pardon?
Monsieur Jérémy de Lagos.
Oui, mais monsieur Jérémy, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait bien.
J'espère que c'est bon.
Oui, c'est bon, allez-y.
Je salue mon père Ambroise pour son développement, pour le travail qu'il a bâti pour ce pays. Je me demande, est-ce que Robert Dussé, c'est un Togolais ou bien c'est un étranger? Parce que ce qu'il est parti dire à l'ONU, ça a donné correspond pas le Togo que nous vivons. Donc il peut mentir à ses enfants, il tape pas mal à la maison et non, il ne peut plus te voler.
On ne va pas dire quand même qu'il peut. Oui, Jérémy, on parle quand même aux autorités. Là, il est très important quand même que ça se dise avec toute courtoisie quand même. Hein? 90. Oui, merci, Jérémy. 90-86-35-35-91-36-63-75. Bonjour, Ambroise. Bonjour à tous. Votre intervention m'a intéressé. C'est un message signé Thierry depuis Dapan. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, je passe par vous pour porter la couronne à toutes les femmes. Et en commençant par Niakade, Parce que, pourquoi je le dis, Dieu sait, avant de donner à la femme l'enfantement, l'homme n'a pas le courage que la femme a. Si on donnait à l'homme d'accoucher un bébé, il ne croit pas qu'il va ajouter encore un enfant. La femme est courageuse. Imaginez un peu qu'un homme qui a les couilles dans ce régime ose dire que ça ne va pas. Imaginez un peu, ils n'ont pas le courage. Ceux qui ont essayé, Agbouyoumi, les Tchabas qui ont essayé de mettre la tête, ils ont retourné. Bon, tout ça là, personne n'ose dans ce régime. Mais eux-mêmes, ils murmurent, ça ne va pas. Mais ce n'est pas Robert Dessé qui va aller dire autre chose. Donc, ils peignent tout en bien ce qui est mauvais. Vous avez même parlé de l'habillement. Ils ont mis quête sur cravate, tout ça là. C'est une cache. On ne sait pas. Vous voyez? Donc, ce régime-là, Nyakade l'a dit. Il faut féliciter aussi Madame Ayamagbo, qui, même malgré Bassonné, elle tient encore. Vous savez, c'est aujourd'hui que vous allez nous comprendre. Même les avocats des traders ont assigné l'État à la justice quand il y avait justice à, sur le trading. L'État avocat a envoyé son avocat à Kérébou, qui est venu dire que non, que vice de procédure, donc l'État ne vient pas. Jusqu'alors, incendie, l'État ne vient pas. Le marché même qui est brûlé, on ne finit pas, mais ça ne va pas. Ça va bien. C'est le Togo là, ça. Donc, c'est aujourd'hui que nous comprenons que Maïmounatou, qui était sur la TVT avec le directeur de Katespi, et il opérait dans sa maison. Le trading, et ils ont dit sur la TVT qu'ils font le trading, aujourd'hui ils sont cachés. Même les accusés, les tickets, le juge même a tapé sur le nom, que ce soit dans l'anonymat. Vous allez comprendre que les Togolais n'ont pas agi dans la naïveté. L'État là, c'est quelque chose. Bonne émission.
Merci pour votre intervention, monsieur Nyamavo, 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Oui.
Bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Ok, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je pense que Alumi Rabat, je ne sais pas si le ministre tu sais, a présenté deux Togo. C'est parce qu'il y a un Togo pour la minorité et un Togo pour la majorité. Je pense que on avait compris ça depuis 2012, lorsqu'on disait qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays. Et même dans l'administration, on fait la surfacturation. Dans un pays où on fait la surfacturation, dont le chef de l'État même a dit, on dit que tout va bien. Vous voyez? Ça veut dire qu'arrivé là-bas, quand on dit que tout va bien, donc on ne va plus amener rien au Togo. Ça veut dire que le Togo est à l'aise. Vous voyez comment le RPT uni est très mauvais? Vous voyez ça là déjà? Les gens qui sont partis, c'est soi-même Robert Dussé qui a dit que Patrice Talon travaille très bien. Et lui, il est parti là-bas, il a dit qu'il a eu 98. Donc, c'est Patrice Talon qui a 100% maintenant. Vous voyez là, les chiffres qui donnent là, on a déjà vu ça. 80, ça dit, ce sont les chiffres des élections. Ce sont les chiffres de leurs élections. 95%, 99%, 120%, tout ça là, c'est ça. Vous voyez ça là? Ça dit, le cahier est là, et puis le terrain aussi est là. On est où là?
D'accord. Merci Pélé pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, c'est Ali.
Ah, monsieur Ali.
Pour vous dire que Dieu aime vraiment le Togo, parce que ceux qui se sont arrogés le pape, ils vont diriger le Togo de force, de façon militaire, se font découvrir ailleurs.
Ali?
Oui.
Il y a une sorte d'écho chez vous, je ne sais pas ce qui se passe. On a du mal, on a du mal un peu à vous écouter.
C'est bon?
Oui, ça va mieux.
C'est bon?
Allez-y.
Oui, ceux qui se sont arrivés de toi, qui vont utiliser le coup de force, se font découvrir ailleurs. Nous, les Togolais, nous savons qu'ils ne sont pas là. Et d'autres se posent la question s'ils ont Togolais. C'est normal. Parce que tu ne peux pas faire affamer ton enfant à la maison et dire aux autres qu'ils mentent bien. C'est très mort. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont négationnistes. Ils font autre chose. Ils disent autre chose, ce sont en l'univers. Mais pour leur dire que Dieu ne va jamais détruire le Togo, c'est eux que Dieu va détruire.
D'accord, merci. On a vraiment des difficultés à écouter Ali. Merci. Voilà, Ali, c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission. Bonjour à tous. Nous remercions Dieu pour la vie. Alors, des journalistes, juste pour saluer le PCPRPA et le professeur Robert Doucet, leur dire que j'ai faim et soif. Je suis enseignant dans les universités togolaises il y a 17 ans et 4 ans au lycée pour un total de 21 ans de carrière. Merci, c'est Dr Emmanuel Koffi Segbignon qui nous a envoyé ce message. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin justement à l'émission. Jean Le Grand Polorini, vous avez écouté les uns les autres. Vous pouvez vous prononcer peut-être alors sur ce que les gens ont dit ou un sujet de votre choix.
Non, moi je voudrais juste interpeller une fois encore nos autorités, les plus hautes autorités, sur la nécessité de vraiment poursuivre le développement qu'ils ont amorcé. Tout ce que nous disons, c'est pour qu'ils puissent réussir, parce que on ne peut pas souhaiter qu'une autorité qui dirige un pays puisse échouer dans sa mission. Mais quand nous faisons des observations, peut-être on se dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, et on ne peut pas danser et s'apprécier. Quand vous dansez, c'est forcément une autre personne qui est en face qui peut vous apprécier. Et quand nous nous apprécions, c'est pour amener à faire mieux. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les Togolais n'arrivent pas directement à avoir accès au numéro 1, à ceux qui sont élevés en autorité. Mais c'est à vous, les journalistes, qu'ils vont parler. Ah, vous êtes journaliste, il y a telle chose ici, il y a telle chose là-bas. Donc, nous sommes en quelque sorte ce relais-là. Et c'est ce job que nous faisons. Et je finis par cette illustration. On me racontait l'histoire d'une personne à Dapan qui a loué une pièce de 4000 francs. Et cette semaine, il dit que lui, il va quitter la pièce de 4000 francs parce qu'il n'arrive plus à payer le loyer et qu'il a des charges. Quelqu'un qui est payé, hein, un jeune qui se débrouille. Si 4000 francs dépassent un Togolais en ce mois d'octobre à Dapan, comprenez que on a vraiment touché le fond et qu'il y a matière à revoir. Il faut au-delà des chiffres qu'on nous donne, c'est vrai, ces chiffres sont bien pour la publicité du pays. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille encore. Il faut que le Togolais soit fier de dire qu'il est Togolais. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous comprenez que les gens ne sont pas fiers de dire qu'ils vivent au Togo. Ce n'est pas... on n'a pas besoin de chiffres pour le comprendre.
D'accord.
Bien sûr, il y a des initiatives comme Olo Africa et Ohana qui permettent quand même de dire que malgré cet environnement compliqué, il y a des gens qui émergent, qui proposent des choses alternatives et positives. Mais tout le monde n'a pas cette capacité qu'on se souvienne de ce bas peuple-là qui croupit encore dans la misère.
D'accord, merci Jean Le Grand pour le réunir. Oui, Magloire.
Non, je crois que partant encore de la déclaration du professeur Robert Doucet à la tribune des Nations Unies, ça me rappelle un conseil qu'un universitaire m'avait donné entre-temps, causait, puis me disait que eux, universitaires, en réalité, on ne doit les prendre au sérieux que ce quand ils dispensent leurs cours dans les amphis. Il me l'a dit clairement, qu'en réalité, l'éthique de leur profession exige de dire la vérité, ce qui doit être dit dans les amphis. Mmh. Mais si je le vois dire autre chose en dehors du campus que ce qu'il ce qu'il enseigne, c'est que ça n'engage que lui. Donc j'ai envie de dire ce que Robert Doucet a dit. C'est vrai que c'est un universitaire, mais ça n'engage que lui. Parce que le Togo que nous vivons aujourd'hui...
Mais il était parti parler au nom du Togo.
Ça, je ne refuse pas. On l'a dit, c'est le ministre des Affaires étrangères, il porte la diplomatie togolaise, donc il vend le Togo. Mais la réalité, c'est que le Togo est différent de celui qu'il a présenté. Parce que ça fait quoi? Aujourd'hui, 5 mois, on n'a pas gouvernement. Lundi prochain, ça fera quoi? Ça fera le délai imparti pour l'élection des maires.
Les 2 mois.
Les 2 mois sera fort clos. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dans ça, le Togo va bien? Je dis non. Mais en réalité, tout ça, on le dit pour que les choses puissent être améliorées.
D'accord.
Personne n'a intérêt à souhaiter quelque chose de mauvais à ce pays. On le dit pour qu'on améliore ce qu'on fait de bien.
D'accord.
Et donc, que le premier responsable... J'ai envie de parler directement à M. Florian Singbé. Parce que si on passe 5 mois sans gouvernement, ça veut dire qu'en réalité, les ministres n'étaient rien. Parce que leur absence et leur présence, ça fait zéro. Donc, ils peuvent se retrouver dans leur posture de simple citoyen après demain, quoi. Donc, de cesser les ailes, tout comme les fonctionnaires qui sont dans leur bureau, qui disent qu'on raconte des histoires en studio, de faire profil bas.
D'accord, ok, merci, Magola. Oui, Ambrose.
Je vais enchaîner sur l'anecdote des 4000 du monsieur Edapan. Les gens s'approvisent de jour en jour, mais certains s'enrichissent, ou veulent s'enrichir sur le dos des autres. C'est le cas de certains médecins, pas tous. Il y a des médecins, des professeurs qui travaillent bien, qui sont bons, qui sont de bons médecins, mais il y en a qui veulent juste s'enrichir, ce qui est mauvais. C'est en cela que nous croyons que ce brûlot n'est pas destiné à leur créer des problèmes, mais de voir plus le volet social de leur métier, de leur profession. Quand vous lisez le serment même de l'Hippocrate, vous comprendrez qu'il y a un volet social qui est là, rien que le patient, tout comme le pharmacien, le médicament doit attendre le patient et non le contraire.
D'accord.
Donc je me dis aujourd'hui que si déjà un médecin ou l'ordre va sur les médias pour dire il y a telle maladie, évitez de prendre tel produit, évitez de manger tel fruit, évitez de manger qui vous aggrave votre maladie.
Merci beaucoup.
Je crois que c'est dans ça on a plus besoin.
D'accord.
De
merci, merci beaucoup, monsieur Ambrose, mon cher Ambrose. Oui, monsieur Coutonnet, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, votre mot de la fin.
Merci beaucoup, Pascal. Ohana Africa, c'est une tradition africaine. C'est une pratique traditionnelle de chez nous que nous souhaitons garder. Comme dit l'adage, ce n'est pas parce que la nuit est noire qu'on éteint sa propre lampe. Il faut qu'on garde l'espoir. Oui. Et c'est pendant la saison sèche qu'on débroussaille le champ.
D'accord.
Il faut qu'on continue à avoir de l'espoir, à pousser. Et quand la verdure va venir, la pluie va venir, on pourra semer.
Vous avez vraiment de beaux adages, hein? Oui, monsieur Touba?
Mais écoutez, après ces beaux adages, moi je n'ai plus rien à ajouter. Je vais juste rappeler le numéro de téléphone, si vous permettez.
Tout à fait, allez-y.
Pour Ohana Africa, il y a le 99-13-23-23. 90-91-28-28.
Merci, merci, merci beaucoup, merci monsieur Touba. Et Tanama d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle le numéro 99-13-23-23, 90-91-28-28. Ce sont là les deux numéros sur lesquels on peut contacter justement Olo Africa. Et merci hein, d'être passé alors dans cette émission. Jean Le Grand Polerini, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Canal D, Ambrose Ponzo, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal des Guadiens. Magola Kenviteko, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates, merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouté a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Côte de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.